Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lou, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Aja El-Mouden.
Bonjour.
Et de Michel Charon.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Prôner la joie universelle ». On entend juste des mauvaises nouvelles à la télé, dans les médias. On rentre dans le métro, il y a des pubs des pubs qui nous vendent un bonheur, mais qui n'est pas un réel bonheur. Je pense tout de suite à quelque chose qui m'irrite au plus haut point, c'est la brigade du bonheur de Coca-Cola. En quoi le Coca-Cola amène vraiment du bonheur quand on sait bien que c'est du poison? Pourquoi on permet ce type de publicité? Puis pourquoi on permet ce type d'idée à être véhiculé, que finalement prendre de l'alcool, prendre du Coca-Cola, c'est lié au bonheur. Donc moi, je crois qu'il est temps qu'on prône simplement et seulement des idées de joie universelle partout, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait.
C'est une bonne idée, mais as-tu un plan?
Ben le plan est toujours le même pour moi, c'est de me changer moi-même. Et puis peut-être que ça peut inspirer les autres à le faire, mais on peut pas demander aux autres de changer si on ne sait pas changer soi-même. Mm-hmm. Si moi, j'en bois pas du Coca-Cola, ça fait longtemps. Je vais pas chez McDonald's, à part dans les toilettes. Ça, je l'ai déjà dit, les McToilettes, OK. Mais à part ça, je boycotte McDonald's. McDonald's vend l'idée que c'est naturel, que c'est bon. Là, on voit les enfants qui jouent, mais en vérité, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Donc, pour moi, c'est simple. Me changer moi-même et faire attention aux idées que moi, je colporte. C'est pour ça que je fais une émission sur le bonheur. Parce qu'à chaque semaine, ça me permet d'exprimer la joie universelle. J'aurai jamais une émission sur la révolte, sur les choses négatives.
C'est sûr que ce que tu parlais tantôt, c'est la corruption faite par la propagande. C'est du PR, c'est des relations publiques gérées de manière à mêler un poison avec quelque chose d'une image positive, de mêler une corruption avec une image positive. C'est dans tellement de choses, dans tellement d'aspects, ça peut être... D'ailleurs, les États-Unis sont des maîtres à donner à des noms de lois tout à fait l'effet opposé, comme le Patriot Act, quand il y a eu 9-1-1, le septembre 2001. C'était vraiment l'opposé. Le Patriot Act, c'est un acte pas pour être patriote, c'est un acte d'espionnage sur toute la population. Alors, c'est la désinformation qui règne. C'est la propagande qui règne. Et bien sûr, faut monter notre niveau de sensibilité à ces choses-là et d'essayer d'être intègre avec ça dans la mesure du possible. Ça veut dire, tu sais, pas boire de Coca-Cola quand tu crois pas à ce qu'ils font, c'est dans ce sens-là.
Pour atteindre l'état de joie, selon moi, il y a quand même une façon de vivre. On n'est pas joyeux qui veut. Je veux dire, c'est une façon de vivre qui nous rend joyeux. Et c'est sûr que tout le monde désire être joyeux, mais il y a une façon de vivre qui fait en sorte qu'on devient joyeux. Par exemple, moi, si je me lève le matin puis je me mets à écouter les nouvelles et tout ce qui se passe de négatif dans le monde, ça va jouer un peu sur mon état. C'est un état, pour moi, la joie, c'est quelque chose aussi qui se cultive et puis qui devient contagieux. Hein? Quand on rencontre des gens joyeux, on dirait que ça nous donne le goût d'être joyeux. Et malheureusement, des grosses compagnies comme Coca-Cola vont miser là-dessus parce qu'ils savent que la joie, tout le monde tend vers la joie, on veut être joyeux. Et inconsciemment, ça rentre dans la tête des gens que boire du coke, ben, on est joyeux. Faut être imbécile pour croire ça, mais en même temps, c'est très, très, très insidieux, ces espèces de publicités-là qui fait en sorte que, sans s'en rendre compte, on a des coques dans les mains, puis on est supposé être joyeux. Alors, c'est vraiment puissant comme manipulation. Et c'est dommage. Mais on dit Coca-Cola, entre autres, mais il y en a plein d'autres comme ça là, qui vont nous manipuler avec pour nous faire croire qu'on va être joyeux avec si on boit du coke ou si on fait telle ou telle chose. Alors que la joie, c'est beaucoup plus quelque chose d'intérieur pour moi que la joie. C'est vraiment une sensation qui vient de l'intérieur, qui n'a pas beaucoup à voir avec l'extérieur. Ça peut amener, c'est sûr, à avoir des choses, ça peut nous amener à avoir des joies, mais beaucoup plus éphémères que si on va chercher cette joie-là à l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Mais moi, je trouve que la phrase « il n'y a pas de place dans le monde que pour les idées qui prônent la joie universelle », elle explique vraiment tout, parce que moi, je me dis que la sélection naturelle a déjà aidé à évoluer l'être humain et continue justement à évoluer à travers cette sélection naturelle. Mais les facteurs de sélection naturelle ont changé. Aujourd'hui, la sélection, elle se fait par qui sont les gens les plus joyeux, qui sont les gens qui sont capables de vivre dans la joie. Et si vous remarquez aujourd'hui, au Canada et en France, c'est les deux pays. Des quelques pays justement où c'est facile de se faire prescrire pas mal de médicaments. Et c'est les deux pays où il y a un très très haut taux de prescription d'antidépresseurs. Les gens qui n'arrivent pas à trouver leur joie parce que justement, les façonnés par les images que l'on voit, les images que l'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous sert à travers la télé ou les médias. Et donc, une fois qu'ils atteignent cet objectif-là, eh bien après, ils sont encore à la recherche de la joie parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Et c'est comme ça que la dépression commence, c'est comme ça que les gens tombent malades. Donc cette phrase, elle le décrit parfaitement, que la joie, il n'y a que de la place pour la joie.
Et en allant dans ce sens-là, moi je pense que quelqu'un ne pourrait pas être élu à une place de pouvoir, comme en politique ou à la télé, s'il n'est pas capable d'émettre de la joie, de rendre les gens heureux. Les campagnes...
C'est souvent un message d'espoir qu'ils donnent, qu'ils vendent, c'est-à-dire ouais, au moment de l'élection.
Tout espoir est vain, surtout venant de ce type de personnes-là. C'est pour ça que moi, j'ai toujours cru que les gens au pouvoir devraient ressembler beaucoup plus aux Jedi. Tu sais, les Jedi, qui est un comité de sages, qui conseille, qui ne va pas attaquer, mais qui peut interférer un peu parfois, mais qui a une sagesse, qui a une capacité de voir dans l'espace-temps. Les gens au pouvoir présentement sont des imbéciles ou c'est des gens extrêmement intelligents qui savent tirer le maximum et nous laisser presque rien.
Ils nous prennent surtout, nous, pour des imbéciles. C'est peut-être mieux.
Mais ils ont raison aussi, hein, quand les gens sont en troupeau, ils ne sont pas très intelligents. Et c'est là-dessus qu'ils se sont toujours basés, hein, parce que ce n'est pas nouveau. Ça, même à l'époque des pharaons, c'était ça. Plus tu as de gens ensemble, pauvres, moins il y a d'intelligence.
Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle en anglais le peer pressure, c'est-à-dire qu'on a la pression des autres. Si une personne de la troupe, elle suit, forcément les autres, ils sont la pression un petit peu de suivre et ça n'enfile plus, on rentre dans un cercle vicieux.
Un cercle vicieux de se compromettre. On est rendu maintenant à un point où c'est normal de s'attendre à se compromettre et de maintenir ce genre d'étiquette, d'attitude-là dans la société. C'est vraiment matière à réflexion. Parce que comme c'est là, c'est difficile d'être pur et noble dans une société qui se veut corrompue et compromettante.
C'est pour ça que ça doit venir de l'intérieur, de créer ta propre éthique. Mm-hmm. Parce que si tu regardes autour de toi, tu verras pas. tu verras pas beaucoup de Christ, tu verras pas beaucoup de Bouddha, tu verras pas beaucoup de Krishna, tu verras pas de vrais gens éveillés. Tu as beaucoup de suiveurs, des chrétiens, des bouddhistes, etc. Mais souvent, ils disent quelque chose, mais ils ne le font pas dans leur vie. Alors ça reste des mots. Et c'est ça le gros problème. Ils prônent des idées, et mais en même temps, lorsqu'ils se retournent dans leur intimité, ils respectent pas ces choses-là. Moi, c'est un gros dommage dans notre société de ne pas être capable d'avoir une éthique, justement. De vivre à la hauteur de nos idées. Moi, je le fais. Mais je suis complètement contre-courant et ça demande une volonté de faire, ça demande un désir qui laisse de côté tout ce que les autres vont penser de moi, par exemple. Parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce bonheur dont je parle, un bonheur permanent, parce que ça semble abstrait pour la majorité. Puis on va faire une pause musicale avec Sacha Distel qui nous chante « Il y a de la joie ». Puis nous allons revenir après avec ce thème « Prôner la joie universelle ».
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. Envoie le facteur qui s'envole là-bas. Comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Brisé de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit:
tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir. Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon. Car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de 20 ans, chansonnette d'amour. Chanson de printemps, chanson de toujours.
Y'a de la joie, y'a de la joie.
Il y a de la joie,
joie partout, il y a de la joie partout, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est prôner la joie universelle. À travers l'histoire, ceux qui ont prôné la joie n'ont jamais été très bien vus et ont habituellement été persécutés. Moi, je pense déjà aux Sybarites, très peu connus. Les Sybarites étaient un peuple à l'époque des Grecs anciens qui, au lieu d'avoir de l'eau dans leur robinet, ils avaient du vin. Ces gens-là faisaient la fête et il y avait du plaisir. Mais tu avais de l'autre côté les pythagoriciens qui étaient hyper disciplinés, hyper masculins. Et les pythagoriciens sont allés complètement ravager la cité des Sybarites. Ils ont exterminé réellement parce que pour eux, c'était des perdants, c'était des losers qui s'amusaient. Alors que les pythagoriciens prônent plutôt l'austérité, la discipline, des choses sérieuses. C'est arrivé à Épicure. Épicure, on retrouve pratiquement aucun morceau de l'œuvre d'Épicure qui a été détruite. Probablement que c'était une pensée extrêmement dangereuse et qui a été détruite. On retrouve pratiquement rien et on a perdu un grand passeur et au profit des aristotéliciens qui, eux, sont beaucoup plus encore là. Les aristotéliciens sont encore dans cette idée de la discipline, de la rationalité, les scientifiques, etc. Et puis, dernièrement, il y a eu les hippies. Hein. Les hippies étaient des perdants, des jeunes poteux. Et pourtant, il y avait des idées totalement révolutionnaires qui auraient pu vraiment changer le monde, mais ils n'ont pas été pris au sérieux. Ils ont, comme d'habitude, dans l'histoire, ils ont été mis de côté. Eux qui prônaient le plaisir, la sexualité, faire la fête au lieu de faire la guerre, eh bien, ils n'ont pas eu la possibilité d'aller plus loin que les années 69, 70.
Tu me rappelles, moi, j'ai la joie facile, je suis quelqu'un de joyeuse et puis d'exubérante même. Et ça dérange. Ça dérange les gens joyeux. Ça dérange autour. Alors, il faut avoir la joie tranquille. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que quand tu es trop joyeux, ça déplaît à certaines personnes. Puis tu viens de faire. Moi, en tout cas, j'ai souvent été plus jeune. Je le suis moins aujourd'hui parce que je sais que ça dérange. Mais j'étais un peu plus naïve et puis j'étais très impulsive. Et ma joie, je l'envoyais un peu partout, comme ci, comme ça. Et puis je me faisais bitcher souvent par des gens, comme s'ils voulaient m'éteindre. Alors que moi, ben, j'avais besoin de manifester ma joie. C'était comme ça. Et puis, avec le temps, bien, ils ont réussi, justement. Je fais plus attention maintenant parce que je ne veux pas me faire piquer, tu comprends? Mais la joie, surtout chez les gens qui probablement ne sont pas joyeux ou ont des problèmes, je ne sais pas, mais ça dérange. Et moi, je ne l'ai jamais fait dans le sens où j'ai toujours fait attention pour ne pas piler sur les pieds de quelqu'un, mais je veux dire, je ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis. Je suis quelqu'un d'exubérant et quand je suis joyeuse, bien, ça paraît.
Mais pense-y, quand on rencontre quelqu'un qui est tout déprimé, qui est tout courbé,
oui,
mais il ne fait pas peur, il est juste comme, ah, c'est un perdant, c'est rien. Mais quelqu'un qui est joyeux, qui est droit, qui émet de la joie, il dérange parce que si on n'est pas nous-mêmes heureux, il nous renvoie notre image, il dit, yeah, ce que je pourrais être. Donc c'est choquant.
Fait que j'ai appris un peu à cacher un peu ma joie de vivre, pas la cacher complètement, mais à faire attention à qui je partageais mes moments de joie pour me protéger, parce que vraiment, je me suis rendu compte que ça faisait pas la peur de tout le monde que je manifeste ma joie. Mais quand je me sens plus forte, ben, des fois, je m'en fous, là, mais quand même, je fais attention. C'est comme ça.
Eh bien, j'aimerais faire peut-être un petit segment à part, mais qui va revenir au sujet de ce que Nicolas parlait tantôt, qui est le genre de deux aspects, discipline ou hippie. Là. Dans un segment du matériel de Dan Winter, il parle de l'historique galactique de l'ADN, ou comment cet ADN, son historique galactique. Et puis, il amène le sujet sur, on pourrait dire, l'ensemencement des mondes. Autrement dit, c'est comme s'il y aurait un fermier. C'est vraiment un débat de fermier dans un sens. Et qu'est-ce qu'on fait pour ensemencer un univers? Il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée qui dit on ensemence dans le but de créer une forêt qu'on va après ça la couper. Tu sais, ça, c'est le contrôle. On la pousse, on la sème, cette forêt-là, dans le but de la couper puis d'en extraire les ressources. L'autre approche complètement opposée, c'est on va en semer la forêt, la nature, et puis on va la laisser faire, puis on va regarder qu'est-ce que tous ces mélanges génétiques-là font, puis on va apprendre de ce qui s'en développe. Fait qu'il y a une pensée d'un côté qui veut contrôler, façonner et extraire la ressource, un autre côté qui veut dire laissons développer, puis voir ce qui s'en développe, qu'est-ce qui va fusionner, qu'est-ce qui va en sortir. Un peu dans ce sens-là, tantôt quand Nicolas parlait du côté pythagorien puis du côté épicurien, ou ces choses-là, c'est un peu ça dans un sens. D'un côté, on veut contrôler puis maintenir les choses parce qu'on craint l'inconnu, on veut prédire le futur en le contrôlant, en le manifestant, en le formatant tout le temps. Puis on est encore là-dedans aujourd'hui. On a encore une force, une pression sociétale là, qui est toujours en train de vouloir formater les choses, formater les jeunes par l'entremise de la domination de la culture. Encore aujourd'hui, cette semaine ou hier plutôt, j'ai regardé un nouveau vidéo de Madonna qui m'a encore... Il y a tellement de clichés, il y a tellement d'éléments là-dedans qui sont des éléments manipulateurs, des éléments qui amènent à vouloir créer une culture vide et qui est dépourvue vraiment de tout contenu vraiment substantiel et qui sont que des messages pour continuer cette propagation de contrôle, de garder les gens. Dans le cas ici, c'est qu'est-ce qu'on essaie? C'est vraiment de garder les gens stupides.
Ouais, Madonna est une Illuminati de toute façon. Donc.
Et c'est pour ça, oui. Et puis, elle est très haute juchée dans cette hiérarchie-là. Et on l'utilise pour ces sauces-là, pour ces messages-là. Donc, mais quand on regarde le message, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on veut encore maintenir... Ben, qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne... On veut maintenir la stupidité des gens en maintenant un genre de domination, de tu sais, encore, c'est la sexualité usée à outrage externe. Dans aucun but concret, sauf que de garder des gens dans une stupidité puis une stupeur continuelle. Fait que, qu'est-ce qu'on parle ici, c'est important dans le sens que faut vraiment là, nettoyer, faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on voit, et puis ça, combien de temps qu'on fait ça. Là, c'est quelque chose à réfléchir. Parce que moi, j'aime bien la créativité, j'aime bien le nouveau, j'aime bien l'idée de penser puis de pousser la frontière de qu'est-ce qui a déjà été fait dans le but de découvrir. C'est ça l'idée, c'est de ne pas régurgiter le passé.
Moi, je trouve cette notion de contrôle que justement Robert a souligné est très intéressante. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir une réserve de bisons et il nous a vu justement expliquer comment le troupeau il fonctionne. Et dans le troupeau de bisons, il y a la femelle alpha qui est la dirigeante et s'occupe de tout ce qui est direction. Et il y a le mâle, le chef, qui était justement le mâle alpha, qui lui s'occupait de la protection. Donc dans tous les groupes de bisons, tu avais deux personnes qui ne font pas le contrôle, mais c'est plus par rapport à la direction, à diriger le groupe et par rapport à la protection. Et je me dis, peut-être, cet impulse de contrôler, justement, c'est une impulse qui a évolué à travers les espèces, à travers les générations, et peut-être c'est de là que ça vient, cette impulsivité de vouloir contrôler d'autres. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut trouver une balance. C'est sûr que il y a quelques gens qui ont besoin d'avoir une direction, mais il faut toujours utiliser son cerveau pour savoir c'est quoi sa propre joie, c'est quoi son propre bien-être.
Mais le contrôle en soi n'est pas mauvais, à mon avis, si c'est fait par quelqu'un sage, quelqu'un qui va dire quoi faire, quand le faire, comme un maître spirituel, un maître réalisé, un sage, un saint. Mais généralement, paradoxalement, ces gens-là ne font pas de contrôle parce qu'ils sont dans la liberté, ils laissent les gens libres d'être. Mais c'est peut-être, mais j'essaie de m'extirper de cette nature animale. Moi, depuis longtemps, je me reprogramme pour justement pas fonctionner comme un animal. Je ne suis pas, moi, je ne viens pas du singe. Je n'évolue pas, je suis évolué. Donc, cette idée que je viens du singe, pour moi, est ridicule. Parce que je viens, si je prends cette allée, je viens autant d'un arbre que de n'importe quoi sur la planète ou dans l'univers. Parce que mon ADN dont tu parlais tantôt, Robert, est à 99,9% égal à celle d'un arbre, d'un singe, de ci, de ça. Donc, c'est minime ce qui nous différencie des autres.
Et elle est composée d'items, d'atomes qui viennent de... qui sont exoterrestres. Donc, tu sais, c'est des choses extraterrestres, des composantes.
Je pense que ce qui nous différencie, c'est la conscience. La conscience d'être conscient.
C'est faire la distinction entre le costume de chair et puis qu'est-ce qui l'anime.
Bien, on va vous laisser réfléchir sur ça. On va passer une pause musicale avec Macobé et une chanson qui s'appelle « C'est dans la joie ». Puis nous allons revenir après avec ce thème « Prôner la joie universelle ».
On est ensemble. À l'aise, ça grouille de 6 heures dans le collimateur des chasseurs. T'as du mal à danser comme Sean Paul. Si t'es rêve, vas-y, joue tes épaules. Remplis ton verre, trinque, c'est la nouvelle ère. 5, tout ce qu'il faut pour te plaire. Y'a des belles gosses, y'a des beaux gosses en force. Oh, c'est dans la joie que tu vas swinguer. Hey, t'en fais pas, on va se marrer. C'est la nouvelle danse, c'est la grande classe. Prends place, personne te remplace.
Aïe, 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 aïe. y a pas le feu, y a pas le drap. Si tu manges pas de suite, ça va être froid. Rajoute une coupe, man. T'écoutes et fais comme chez toi, gars. T'écoutes, DJ. Perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes.
Yes, papa.
La foule le presse.
J'ai déjà.
Presse. Y'a faux, lâche ton dernier pas de danse. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance.
Eh, hey, mon Kobe, toutes les fans dans cette boîte-là s'appellent Laisse-moi tranquille. Eh, mon Kyo.
J'ai des jambes. Aïe. La go, remis ton appel. Tiens ça.
Yeah.
Hey, la petite bouge ton bon job. Fais pas trembler.
Mon ami, écoute ce son-là. C'est pour toi que nous avons baillé.
Ouais, gros.
C'est pour toi que nous avons chanté. C'est pour toi qu'on vit tout ça.
BPS, beauté, BPS. Aïe.
Aïe, 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 aïe. Si dans la joie, la compagnie.
La barre, pour te faire pas magie. Quand tu as dit là, tu sors d'hiver.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Prôner la joie universelle ». Moi, quand je vois des gens protester, faire la révolte, faire des manifestations violentes, je me dis toujours, mon Dieu, l'être humain n'est pas évolué, contrairement à moi. Parce que si les gens étaient comme moi, ben, au lieu de sortir dans les rues fâchés, ben, ils iraient rire, ils feraient la fête. Par exemple, au lieu de faire une révolte, faire brûler des autos de police, etc., pourquoi on n'irait pas devant le Parlement de Québec? On va attendre que les politiciens sortent, puis on se met tout à rire d'eux. Ils ne seraient plus capables de se contenir. Si tout le monde allait rire d'eux, aucune violence, juste de la joie. Et ça, ils ne sont pas habitués à ça, ils ne sont pas préparés à ça. Ils sont préparés à la violence, ils sont bien protégés, mais ils sont propres. Ils ne sont pas préparés à des sautes de joie de la population et ça arrive très peu souvent. Et c'est généralement des moments comme ça qu'on peut vraiment changer les choses. C'est parce qu'une révolution, c'est généralement repris tout de suite après quelques années par ceux-mêmes qui ont voulu la défaire. Ils prennent le pouvoir et ils sont un des mauvais maîtres qui remplace un mauvais maître. Et c'est rare de voir des vraies révolutions. Moi, j'aime bien celle de Gandhi, qui était non-violente, qui n'est pas nécessairement dans la joie, mais qui était dans la paix. Pour moi, c'est assez proche, parce que la joie universelle, pour moi, fait appel à la paix intérieure, à la paix totale.
Ben, moi, je dois dire, du côté de faire la fête à la place de faire des manifestations, ben moi, je faire la fête, c'est toujours une bonne idée, n'importe quand. Rire d'eux, ça n'aura pas d'impact, d'après moi. Ça ne changera pas les choses. C'est parce que les autres, de toute façon, sont complètement... c'est supposé que ces politiciens-là ont un sentiment quelconque vis-à-vis de nos actions. Eux autres n'ont pas de sentiment. Ils se foutent des gens, déjà. Donc, qu'on soit heureux à fêter ou qu'on soit en train de se faire matraquer par les forces de l'ordre, eux autres font toujours bien ce qu'ils font, c'est-à-dire d'être un agent des banques, un agent des intérêts corporatifs, etc. Donc, qu'est-ce que tu dis sur Gandhi, par exemple? C'est ça que je retiens de tout ça. C'est que si on est pour avoir un impact, c'est beaucoup mieux de passer le mot et de faire une non-coopération non-violente à large échelle. À large échelle. Non-coopération non-violente à large échelle. Ça, ça peut avoir un impact. Par exemple, si on se dit, ben, cette année, personne paye de taxes ou envoie son rapport d'impôt ou quoi que ce soit, ou personne de l'île de Montréal décide de payer son compte de taxes scolaires, par exemple. Là, je donne un exemple, là, parce qu'il décide que cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient ou quoi que ce soit. Ça, ça serait un geste concret d'une non-coopération non-violente à large échelle. Personne ne va... va être mort de ça, personne ne va être violent avec ça. Mais ça, c'est des exemples concrets. De rire d'eux, on peut le faire pour bouffonnerie comme chose, mais je ne vois pas l'impact concret ou important de
l'impact est lié au thème de cette émission. Prôner la joie universelle. Quelqu'un qui va manifester comme ça dans la joie, à mon avis, et c'est l'étape après Gandhi. Gandhi n'était pas rendu là. Il était pas dans la... me semble, quand je pense à lui, je pense à un petit vieux qui est sérieux, qui médite, qui... intense, mais je le vois pas nécessairement rire. Mm-hmm. Je pense qu'on est rendu à cette étape des éclats de rire. Et puis si toute une population commence à rire comme ça, mais mm-hmm. c'est pas un rire stupide, là. Je veux dire, c'est un rire conscient
oui.
de que ces gens-là sont ridicules. Et qu'il faut leur faire sentir qu'ils sont ridicules. Mm-hmm. Et ça, bien sûr, on ajoute ça à des actions comme arrêter de voter, arrêter de payer ses impôts.
Je crois que ceci à la racine ou une des racines de ce problème-là, c'est le fait qu'on a tous été endoctrinés à croire une superstition. Et cette superstition est celle-ci. Croire que l'autorité est réelle. Le droit d'avoir l'autorité d'un gouvernement, des lois, de ces choses-là est concret. Et ça, c'est une superstition de décennie en décennie, de génération en génération, qui a été perpétrée. Le principe du fait que l'autorité existe et qu'elle doit être obéie. Et en contraste de ça, bien sûr, ça amène à un autre sujet qui est le sujet de l'anarchie. Donc, c'est un autre sujet, là, mais l'idée, c'est de donner son autorité à un autre groupe pour qu'il te fasse dessus si on ne se conforme pas. Alors, ça a toujours amené à la violence, et c'est toujours historiquement amené à la violence. C'est un autre sujet à débattre. Là. Je ne vais pas vraiment nécessairement mobiliser la conversation là-dessus. Mais d'après moi, une des données fondamentales problématiques, c'est cette croyance en l'autorité, qui est fictive.
Pas facile de garder sa joie de vivre avec un système dans lequel on vit. je veux dire, on n'est pas... C'est pas une société où on valorise tellement la joie parce qu'on nous ramène souvent à la rigidité. Tu sors du restaurant, t'as un ticket, tu sors ton auto, tu reçois ton Hydro-Québec, tu reçois... En tout cas, t'as plein de choses comme ça qui fait que, ben, il faut vraiment que tu sois... Il faut que ça soit une joie intérieure, bien sûr, mais c'est sûr que les choses extérieures viennent jouer un peu sur ta joie. Et puis, c'est difficile, je pense, d'être joyeux dans un contexte dans lequel on vit. Je pense que c'est pas prôné par la société d'être joyeux tout le temps, sauf si on veut vendre de l'alcool, on veut vendre... du coke, on peut vendre telle affaire. Là, oui, on va prôner la joie. Mais sinon, il ne faut pas être trop joyeux, là, tu sais, là, parce que il y a des choses qu'il faut faire, par exemple, payer ses impôts, puis il faut revenir à l'ordre. Et donc, la joie, c'est pas quelque chose Il y a du contrôle par rapport à la joie. C'est du contrôle, c'est-à-dire pas inconscient, mais je veux dire, des fois, c'est pas perceptible, mais il y a un contrôle là-dedans.
Mais pourquoi? C'est simple. Quelqu'un qui est joyeux, généralement, il n'a pas le goût de travailler. Il a le goût de s'amuser, il a le goût de passer du temps avec ses amis.
Il n'a pas peur.
Il n'a pas peur. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que l'humanité n'est pas tenue dans la joie, parce que ça, elle serait incontrôlable.
La peur. La peur. Si on peut te maintenir en peur, on te maintient en contrôle. On va dominer. Juste si tu peux t'éloigner de ça puis d'être sans peur. Déjà, là.
C'est intéressant parce qu'en anthropologie, la première chose qu'on m'a enseignée, c'est que... en sociologie, la première chose qu'on m'a enseignée, c'est justement le concept d'une... Pour avoir une société, former une société, il faut avoir la perception d'un ennemi commun. Et... C'est là que justement la peur elle rentre en jeu, et c'est là que pour avoir justement une société qu'on crée ce collectif là qu'on puisse contrôler, il faut ramasser tout le monde ensemble et il faut trouver un ennemi que tout le monde va avoir en commun
afin de maintenir une sécurité.
Exactement.
Mm-hmm. Oui, ces gens qui dominent présentement le monde par leur richesse, leur brutalité. C'est des maîtres de ça. Il y a des livres sur le sujet. Moi, j'avais déjà lu Sun Tzu, qui s'appelle « L'art de la guerre », où on pense à Machiavel. Ces gens-là ont écrit des livres pour les gens puissants, pour leur dire comment à manipuler les gens comme nous. La donne a peut-être changé dans les dernières années à cause de la technologie, mais la technologie, elle est amenée par ces gens-là, parce que ça leur sert. Avant que ça nous serve, la technologie sert aux gens de ce monde, aux gens puissants qui, eux, en tirent une grande richesse. Ils savent tout sur nous. Ils sont capables de lire dans nos pensées. Tout est possible. Et moi, je veux même pas aller aux États-Unis à cause... J'ai pas confiance. Je me sentirais pas en sécurité dans ce pays-là. Et sachant les idées que j'aimais depuis des années sur la joie, sur les drogues psychédéliques, mes idées anti-politiques seraient peut-être pas très bien vues là-bas. Puis, n'étant pas un Américain, mais je serais peut-être pas très bien traité. Donc, si moi, je peux passer à côté des États-Unis sans jamais y aller, je vais être le plus heureux des hommes.
Moi, depuis quelques années, je n'écoute plus les nouvelles. Parce que pour moi, les nouvelles, c'est pas très agréable la plupart du temps. Puis, il y a aussi un côté où, pendant que tu es en train, tu es occupé avec les nouvelles, il y a une espèce de manigance qui fait en sorte que... Oups, là, on est en train d'organiser quelque chose. Je ne suis pas en train de paranoïer, faites-vous-en pas, là, mais je veux dire, on nous manipule, on nous tient occupés pendant qu'on est en train d'organiser.
Ouais.
Tu comprends? On est distrait là, par ça. Et c'est voulu, ça. Hein?
Oui, bien sûr.
On étudie ça en sociologie, c'est voulu, ça. Et pendant ce temps-là, on est en train de nous enfirouaper, là. On est en train d'organiser des choses pour mieux nous manipuler.
C'est un peu comme les toréadors. Tu sais, avec la cape rouge, alors le taureau regarde la cape rouge.
Pendant
ce temps-là, l'autre, il sait déjà qu'il va planter le couteau à un endroit stratégique. Mais on dirait que les êtres humains n'apprennent pas. Parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Là. C'est pas nouveau là, dans l'histoire. Là. Puis même, on peut remonter avant les Grecs. Là. Ça fait longtemps. Il faudrait bien qu'on se réveille à un moment donné ou qu'une certaine partie de la population se réveille. Ça serait le temps.
L'être n'est pas éveillé dans son corps, dans son costume de chair, puis c'est ça qui est le but que j'espère cette émission-là va essayer d'inciter les gens à revenir à l'intérieur, pour découvrir leur vrai héritage, leur vraie nature essentielle, leur vraie nature immortelle, et de redevenir le Dieu vivant.
Bien, nous allons faire une pause musicale avec Chopin, qui est interprété par Frédéric François. C'est une chanson qui s'appelle « Joie de vivre ». Chopin est un être, à mon avis, est un saint, est un homme, un sage qui avait atteint des états très, très subtils de conscience et qui les a très bien exprimés dans sa musique. Et on va vous laisser avec cette chanson. Puis nous allons revenir après avec ce thème « Prôner la joie universelle ». Thank you. retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Prôner la joie universelle ». L'énergie de la joie est beaucoup plus facile que l'énergie de la souffrance et de la douleur. C'est quelqu'un qui est joyeux, on dirait que tout est plus facile. Parce que tu souris, premièrement, tu dégages une lumière, tu es toujours positif, tu es toujours retourné vers l'avant. Parce que généralement, lorsque quelqu'un est malheureux, c'est qu'il regarde son passé, ça s'est mal passé, il y a des lacunes, des carences, etc. Et il me semble que vivre dans la joie, c'est beaucoup plus facile. Moi, je regarde ma vie. Ma vie, elle a été toujours facile parce que j'ai toujours été joyeux. Moi, ça me rendait tellement joyeux faire de la bande dessinée, et après de la peinture, de la musique, faire de l'art. Et ça me portait, ça me faisait que j'arrivais à des endroits où les gens n'étaient pas capables d'arriver. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui est carriériste. J'ai jamais visé d'avoir une carrière. Mais ce que moi, j'ai atteint, c'est des petites choses pour les hommes d'affaires pressés ou les femmes d'affaires pressées, c'est rien. Moi, écrire des livres sur la joie, faire une émission de radio sur le bonheur, une émission de télé, pour moi, c'est ça le centre de ma vie, c'est de la création. Et la création toujours orientée vers le bonheur. Et je regarde même mes bandes dessinées et mes peintures. Depuis mon enfance, il n'y a jamais eu de période déprimée dans ma vie. Donc, toujours, c'était de l'humour ou de la beauté ou de la couleur. Donc, je peux dire que j'ai été comme permanent toujours dans mon désir d'exprimer ou de prôner la joie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, ça se reflète bien sûr dans ma vie. Quelqu'un qui est malheureux ne restera pas longtemps dans ma vie si c'est un malheureux chronique. Tu sais, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas guérir. Mais moi, je ne suis pas le médecin des incurables. C'est quelqu'un qui ne veut pas guérir, mais il n'est pas bienvenu dans ma vie puis il finit par sortir très rapidement. Quelqu'un qui veut, au contraire, se guérir, il va trouver des très bons conseils. Parce que je regarde ma vie, c'est une belle vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Il m'en reste encore beaucoup à vivre. Mais regardant ce que j'ai fait, je peux dire que je suis très, très bien parti.
Moi, je pense que en gardant son cœur d'enfant, si je regarde les enfants ont beaucoup à nous apprendre justement sur la joie de vivre. Les enfants, on ne les voit pas longtemps malheureux, longtemps tristes. Ils vont bouder, ils vont faire leurs petites choses, mais c'est très rapide. Ils vont redevenir joyeux. C'est comme facile pour eux autres. Bien sûr, ils n'ont pas tous les soucis puis les préoccupations de payer le loyer, de manger, de ci, de ça. C'est sûr que ça l'aide beaucoup, mais mis à part ça, je pense qu'ils sont, tout simplement joyeux parce que c'est un état du moment présent. Je pense que c'est leur moment présent qu'ils ont une facilité à vivre leur moment présent. Et c'est ça qui fait que nous, on devrait suivre, en tout cas, moi, j'ai le goût de suivre leur exemple, de vivre mon moment présent pour justement être plus dans la joie. Parce que quand je vis mon moment présent, je suis dans la joie. C'est si je me mets à penser à le passé ou l'avenir, là, je vais avoir des moments où peut-être d'inquiétude qui vont un peu venir un peu troubler ma paix. Et si on trouble ma paix, bien là, la joie est moins là. Alors, c'est ça. Moi, je pense que prendre exemple des enfants, et si moi-même, je pense quand j'étais enfant, j'étais une petite fille qui était tout le temps joyeuse, qui riait tout le temps. Alors, j'aimerais ça garder ça.
Et puis, c'est pas rare de voir un petit enfant qui quand il te voit dans la rue, il te dit bonjour, il te connaît même pas, ou il te fait un sourire dans le métro. Mais il n'est pas encore programmé. Quand l'école commence, là, c'est le problème qui commence.
Le formatage commence. Ouais. Eh bien, écoute, je peux pas dire, je peux pas voir grande objection à ce que tu as mentionné tout à l'heure. Ça demeure que s'il y a un message à partager encore, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir à notre vrai essence, de trouver les concepts, les leçons, les choses qui nous ramènent, les pratiques qui nous ramènent à se redécouvrir, de découvrir le Dieu interne et de revenir à notre essence éternelle. C'est une fois qu'on connaît qui on est, qu'on voit que la supercherie qui nous entoure et les fausses illusions apportées par des excès d'émotion parfois ou quoi que ce soit, qui nous amènent à ne plus être dans le moment présent, être dans le passé ou dans le futur stressant ou dans le passé déprimant. toutes ces choses-là viennent à la lumière, viennent à la surface quand on revient à connaître c'est quoi notre vrai essence. On s'en fait moins parce qu'en réalité, les amis, il n'y a rien à faire.
Moi, j'ai découvert quelque chose cette semaine qui m'a vraiment, éveillée en quelque sorte. Justement, on sait tous que la joie apporte beaucoup à la personne au niveau spirituel. Mais j'avais pas encore vraiment compris la notion que la joie, c'est pas juste au niveau spirituel, c'est aussi au niveau physique. Quand on est joyeux, nous avons un impact direct physique sur le monde qui nous entoure. Et je l'ai compris parce qu'on m'a parlé du chercheur qui s'appelle Matsuru Emoto. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris des molécules d'eau et il les a exposées à des personnes qui étaient joyeuses et des personnes qui ne l'étaient pas. Et il a voulu voir comment était formée justement cette molécule-là, dépendamment des circonstances. Et il a trouvé que justement, quand les gens étaient en joie, en paix, qu'ils étaient tous en unition, eh bien, la molécule d'eau est formée, on appelle ça la cristalline, c'est comme un cristal, la forme d'un cristal qui est la forme idéale d'une eau qui est très très pure. Et justement, l'eau était exposée à des nuisances, soit que ce soit la musique qui était très bruyante ou des gens qui étaient extrêmement haineux, eh bien la molécule d'eau, elle ne formait pas ce cristal-là, elle formait plutôt une bulle. Donc, nos pensées, nos émotions envers les autres personnes, dépendamment de si on est joyeux ou pas, ont un impact direct physique sur le monde qui nous entoure. Alors imaginez-vous, si on était tous joyeux, de quoi auraient l'air toutes les molécules de notre océan?
Ben justement, parce que moi, j'ai eu cette réflexion à un certain point, parce que tu dis, bon, tu parles de l'eau, l'eau est très sensible, mais on est fait à 95% d'eau. Notre planète est faite à, je ne sais pas quoi, 90% d'eau. Donc imagine toute la colère des êtres humains, les guerres, c'est sûr que ça l'affecte. L'eau, la planète, la température. Et si, justement, les gens commençaient à émettre de la joie consciemment, et ça, c'est un gros travail d'éducation, il faut commencer par éduquer les éducateurs, ceux qui ont des enfants, leur apprendre à ne pas censurer ça chez leurs enfants, continuer à laisser mais en même temps, apprendre aux enfants à être capables de le faire consciemment, parce qu'un enfant ne le fait pas consciemment, il est dans le ici-maintenant. Mais en grandissant, le temps, bien sûr, arrive. Moi, je me rappelle quand j'ai terminé l'école, j'ai commencé à penser à l'argent. Jusqu'à l'âge de 24 ans, j'y pensais pas. J'étais chez mes parents, j'étais abstrait, j'avais pas besoin d'y penser tant que ça, juste pour acheter mon matériel d'art et tout. Mais la nourriture rentrait dans le frigidaire, tout se faisait automatiquement.
Par magie.
Par magie. Mes études ont été payées par mes parents. Mais ici, là, ça a commencé. Là, ça devient une volonté. C'est pour ça que je dis, moi, la volonté du bonheur. C'est qu'un certain... Dans l'enfance, c'est facile d'être heureux. Mais plus on vieillit, plus ça prend une volonté. Parce que, bon, il y a les petites maladies, les petits défauts, les morts, les départs. Un paquet de choses qui nous usent. Et c'est là que ça prend une volonté. Et pour émettre des pensées de joie, ça, c'est l'étape après, c'est de dire « je ne vais pas me priver, je vais constamment envoyer ça dans le monde ». Et moi, pour moi, c'est important. Parce que parler du bonheur, c'est fondamental dans ma vie. Et puis, j'ai toujours fait ça, et surtout depuis les dernières années, ou avec l'émission de radio. Mais moi, je voudrais bien faire une émission de télévision aussi sur le bonheur. Et puis après, des spectacles. Parce que plus on en parle, ben moi j'attire des gens comme vous, les animateurs aujourd'hui, qui veulent en parler, qui sont intéressés à ce sujet-là. Les auditeurs aussi, vous êtes intéressés, c'est évident, si vous nous écoutez. Les chansons que je mets, c'est toujours des chansons que je vais chercher sur le thème de l'émission. Donc, je découvre des artistes qui parlent de ces choses-là. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire, prôner la joie universelle, c'est d'en parler, mais intelligemment, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ça peut choquer. Mais donc, c'est de le faire avec les bonnes personnes au bon moment.
Prenez la joie, c'est aussi une question d'attitude, la joie. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, je pense que ça prend une espèce de discipline. Plus on vieillit, plus il y a des contraintes et tout ça qui fait que, oui, on peut se laisser aller à le négatif et tout ça. Mais oui, la discipline, une question d'attitude. Je ne veux pas faire trop cliché, mais les pensées positives, tout ça, ça peut aider à rester dans le dans la joie. Donc, ça prend de la volonté. Je suis très d'accord avec toi, Nicolas. Parce que c'est facile de s'en aller vers le bas, vers, bon, écoute, ça va mal, ça coûte cher, tout ça. Tu sais, toutes ces pensées-là qui sont véhiculées par la société, on peut facilement tomber là-dedans. Donc, en ayant sa discipline et sa question d'attitude, comme je vous dis, moi, quand je me lève le matin, j'essaie d'aller méditer plutôt que d'aller regarder les nouvelles, tu sais, ou d'écouter les nouvelles. Parce que ça, c'est sûr que ça va m'amener dans un état qui ne sera pas tellement... facilitera pas la joie de vivre.
Mais tu sais, par la loi d'attraction, on attire ce qui nous ressemble. Donc, si constamment la personne va être négative, elle va chialer, bien, elle va attirer ce type de personne, elle va attirer ce type de situation. Et au contraire, le bonheur, lorsqu'on exprime la joie de toutes les couleurs, on attire des choses belles dans notre vie. On est plus à même de les voir comme quand elles passent sous nos yeux. Je suis très attentif à ces petits détails, des fois, qui sont rien pour quelqu'un, mais se lever le matin avec sa compagne, pouvoir partager des rêves, faire l'amour avec elle le matin pendant que tout le monde est au travail. Bien, je vais vous laisser réfléchir à ça cette semaine. Prenez la joie cette semaine. Faites l'exercice et vous allez voir, votre vie va changer. On va finir avec une chanson de Gus Viseur qui s'appelle « Douce joie ». Puis je veux en profiter pour remercier le mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Et il me reste simplement à vous dire bonne semaine à tous.
Bonne semaine et restez joyeux.
Bonne semaine.
Et venez écouter toutes les émissions sur propossurlebonheur.com.